Chapitre 2. La joie et la douleur blessent avec la même gravité le sein de l'infortuné, mais la goutte de sang que fait jaillir la teinte de l'épine ne colore-t-elle pas d'un rouge plus vif la rose pâlissante? Ainsi s'exprimait avec une emphase affectée la jeune Clémentine, toute imbue du style de Jean-Paul. Et elle pressait en même temps, à la dérobée, la main d'un gentil jeune homme blond, qui n'avait que trop légèrement secoué déjà les chaînes de roses dans lesquelles Clémentine l'avait enlacé avec une jalousie menaçante et qu'il avait trouvé mêlée d'épines trop aiguës. Il répondit par un sourire assez fade et dit seulement « Oh oui, charmante !» En même temps, il ordonnait un verre de vin qu'un domestique venait de lui présenter et qu'il aurait volontiers vidé sur la sentence sentimentale de Clémentine. Mais il en était bien empêché, attendu que Clémentine tenait fortement sa main gauche, tandis qu'avec la droite, il venait justement de prendre possession d'un morceau de gâteau. En ce moment, Willibald reparut dans le salon, et tout le monde de l'entourer, de l'accabler d'un déluge de questions. « Pourquoi ? D'où ? Mais quoi ? Et comment ?» Willibald prétendait obstinément ne rien savoir, mais c'était d'un air de finesse qui laissait croire tout le contraire. On ne cessa pas de le solliciter, car on avait très bien remarqué qu'il avait rejoint avec le conseiller intime Ford, le général Rixendorf et le jeune Max, et prit part à leur entretien avec beaucoup de chaleur. « Tu l'en exiges absolument, dit-il enfin, que je divulgue prématurément l'affaire importante dont il s'agit. On voudra bien me permettre d'adresser certaines questions préalables à la très honorable compagnie. » On y consentit sans peine. Alors Willibald commença d'un ton pathétique. « Le secrétaire de monsieur le conseiller intime Ford, appelé Max, ne vous est-il pas tous connu comme un jeune homme bien élevé et richement doté par la nature ?»« Oui, oui, oui !» crièrent les dames tout d'une voix. « Son aptitude aux affaires, poursuivit Willibald, son zèle et l'étendue de ses connaissances ne sont-ils pas notoires ?»« Oui, oui !» crièrent les messieurs d'un commun accord. Et quand Willibald demanda encore si Max ne passait pas partout pour le garçon le plus subtil, pour l'esprit le plus fécond en drôlerie, en joyeuseté, et s'il ne possédait pas enfin comme dessinateur un talent si remarquable que Rixendorf n'avait pas dédaigné de lui donner des leçons, lui, Rixendorf, dont la réputation d'amateur avait pour garant des œuvres vraiment extraordinaires, ce fut un cœur général des dames et des messieurs qui répondit « Eh oui, oui, oh oui !» Willibald alors commença le récit attendu si impatiemment. « Il y a quelque temps, dit-il, qu'un jeune maître de l'honorable corporation des tailleurs célébrait sa noce. La chose se vit avec pompe. La rue retentissait des accords des trompettes dominant le sourd ronflement des contrebasses. C'était avec un véritable désespoir que Jean, le domestique de monsieur le conseiller intime, regardait les croisées resplendissantes de la salle du bal. Le cœur lui saignait en croyant entendre parmi les danseurs les pas de la jeune Henriette, qu'il savait être à la noce. Mais lorsqu'il vit Henriette se montrer elle-même à la fenêtre, il ne put pas y tenir plus longtemps, il courut à la maison, se mit dans sa plus belle tenue et monta résolument dans la salle de noces. On consentit bien à son admission, mais à la condition douloureuse, qu'à la danse, le premier tailleur venu aurait la préférence sur lui, ce qui le réduisait à ne pouvoir s'adresser qu'aux jeunes filles que personne ne se souciait d'inviter à cause de leur laideur ou d'autres désagréments. Henriette était engagée pour toutes les valses et contredanses, mais dès qu'elle vit son bien-aimé, elle oublia toutes ses précédentes promesses pour le prendre pour cavalier, et l'intrépide Jean renversa par terre, en lui faisant faire plusieurs culbutes, un petit avorton de tailleur qui voulait lui disputer la main d'Henriette. Ce fut le signal d'un soulèvement général. Jean se défendit comme un lion en distribuant de tous côtés des soufflets et de solides coups de poing. Mais il dut succomber enfin au nombre de ses ennemis. Il fut ignominieusement jeté en bas de l'escalier par les compagnons tailleurs. Plein de fureur et de désespoir, il voulait briser les carreaux, il jurait, il tempêtait. Max, en rentrant chez lui, passa par là en ce moment, et il délivra le malheureux Jean des mains des soldats du guet qui se disposaient à le mener en prison. Jean ne cessait de se plaindre de sa mésaventure et persistait à vouloir en tirer une vengeance éclatante. Max, pourtant mieux conseillé, parvint à calmer son exaspération, mais ce ne fut qu'en s'engageant formellement lui-même à prendre parti pour lui et à lui donner satisfaction de l'injure qu'il avait reçue. Ici, Willibald s'arrêta tout court. Eh bien, et après ? Une noce de tailleur ? Un couple amoureux ? Des coups de bâton ? Mais où tout cela devait-il aboutir ? Ainsi criait-on de toutes parts. Permettez-moi, reprit Willibald, de faire observer à l'honorable assemblée, ainsi que l'expose le célèbre Weber Zettel, que dans cette comédie de Jean et d'Henriette, il se rend compte des choses qui flatteront peu le goût du public, et qu'il pourrait même bien arriver que certaines convenances s'y trouvassent blessées. « Bon, vous saurez bien arranger cela, cher monsieur Willibald, » dit la vieille conseillère du chapitre de Crane en lui frappant sur l'épaule. « Quant à moi, vous savez, je puis entendre bien des choses. » Le secrétaire Max, poursuivit donc Willibald, s'assit l'autre jour à son bureau, prit une belle et grande feuille de papier vélin, un crayon et de l'encre de Chine, et dessina, avec la vérité d'imitation la plus parfaite, un grand et superbe bouc. Il n'est point de physionomiste qui n'eût trouvé dans les traits expressifs de ce merveilleux animal un riche et curieux sujet d'étude. Il y avait dans le regard de ses yeux spirituels je ne sais quelle vivacité énergique, bien que les contours de son museau barbu parussent plissés par une espèce de contraction musculaire qui témoignait d'une souffrance intérieure très aiguë. En effet, le bon bouc était occupé à mettre au monde, par une voie fort naturelle, mais avec de douloureux efforts, une foule de tout petits tailleurs mignons et charmants, armés de ciseaux et de carreaux, et dont l'activité vitale se déployait dans leurs postures grotesques et variées. Au bas du dessin étaient écrits des vers que j'ai malheureusement oubliés. Cependant, si je ne me trompe, le premier disait « Mais qu'est-ce que donc que le bouc a mangé ?» Je puis certifier du reste que cet étrange bouc... « Ah, assez !» s'écrièrent les dames. « Laissez-la cette vilaine bête. Parlez de Max, c'est de Max que nous voulons savoir. » Le susdit Max, reprit Willibald, donna le dessin complètement terminé et d'un effet saisissant au vindicatif Jean, qui alla aussitôt adroitement le placarder sur la porte de l'auberge des tailleurs, où pendant tout un jour il fut l'objet de la curiosité des passants et servit de texte à mille plaisanteries. Les policiers des rues attroupés lançaient leurs bonnets en l'air avec des transports de joie et se mettaient à danser autour de chaque tailleur qui passait, en chantant et en criant de tous leurs poumons « Et qu'a donc mangé le bouc ?» « Ce n'est peut-être que Max, le secrétaire du conseiller intime, qui a fait ce dessin, » disaient les peintres. « Ce n'est peut-être que Max, le secrétaire du conseiller intime, qui a écrit ces vers, » s'écriaient les maîtres d'écriture. Bref, lorsque l'honorable corporation des tailleurs eut recueilli toutes les informations nécessaires, Max fut dénoncé au magistrat comme l'auteur de la caricature. Et comme il ne pouvait guère compter sur le succès d'une dénégation, il se voyait menacé d'une incarcération peu agréable. Il courut alors tout désespéré chez son protecteur, le général Rixendorf. Il avait déjà consulté vainement 20 avocats. Tous avaient froncé le sourcil, hoché la tête et parlé d'un système de dénégation opiniâtre, expédient qui répugnait beaucoup à l'honnête Max. Le général lui dit au contraire: Tu as fait une sottise, mon cher enfant. Ça ne sera point les avocats qui te sauveront, ce sera moi. Et seulement parce que j'ai reconnu dans ton tableau un dessin correct et un véritable esprit de composition. Debout comme figure principale de l'expression et du caractère. J'ai remarqué aussi les tailleurs déjà couchés par terre, qui présentent à l'œil un groupe de formes pyramidales très heureux et riches, sans confusion. Tu as aussi fort bien traité la figure principale du groupe inférieur, le tailleur qui travaille à se dégager avec tous les signes d'une douleur insupportable. Il y a du Laocoon dans l'expression de souffrance peinte sur ses traits. Je te félicite encore de la manière naturelle dont sont représentés ceux qui tombent. Nom du ciel, il est vrai. Mais raccourcis, trop hardis, sont très adroitement dissimulés au moyen des carreaux. Ton imagination enfin t'a bien servi pour peindre la pénible attente de nouveaux enfantements. Mais les dames commencèrent à murmurer avec impatience, et le conseiller à l'habit de brocart murmura: Mais le procès de Max, le procès, mon cher ami. Cependant, ne le prends pas en mauvaise part, dit le général, ainsi continua Willibald. L'idée de ce tableau ne t'appartient pas, elle est très ancienne, mais c'est précisément ce qui doit te sauver. À ces mots, le général fouilla dans un vieux bureau et en tira une blague à tabac sur laquelle la caricature de Max se trouvait très nettement reproduite et même presque sans aucune variation. Il remit la blague à son protégé comme pièce de conviction et tout fut dit. Comment cela? Comment cela? S'écrièrent confusément tous les auditeurs. Mais les juristes qui se trouvaient dans la société se mirent à rire tout haut, et le conseiller intime Ford, qui sur ces entrefaites était rentré dans le salon, dit en souriant: Oui, sans doute, il n'y a l'animum inguiandi, l'intention d'offenser, et il fut acquitté. C'est-à-dire, ajouta Willibald, que Max dit pour sa défense: Je ne puis nier que le dessin ne soit de ma main, mais je n'ai point eu l'intention de blesser en aucune manière la corporation des tailleurs, que j'honore infiniment. J'ai copié simplement, comme vous pouvez le reconnaître, le dessin original existant sur cette ancienne blague à tabac, qui appartient au général Rixendorf, mon maître dans l'art de peindre. Mon imagination m'a seulement suggéré quelques légers changements. Cet ouvrage a passé dans des mains étrangères, mais moi, je ne l'ai montré à personne, et encore moins affiché. Quant à cette circonstance qui fait tout le corps du délit, j'attends qu'on produise des renseignements contre moi. La production des 10 renseignements est restée à la charge de l'estimable corporation des tailleurs, et Max a été acquitté aujourd'hui même. De là, ses transports de joie et ses remerciements à son protecteur. Toutefois, l'opinion générale fut que la manière chaleureuse dont Max avait exprimé sa reconnaissance était empreinte d'une folle exagération relativement aux circonstances qui l'avaient motivée. Il n'y eut que la conseillère intime Ford qui dit d'une voix émue: Ce jeune homme a un sentiment d'honneur plus délicat que personne et une susceptibilité des plus vives. c'était pour lui un coup affreux que d'encourir une punition corporelle, et il n'aurait pour jamais déserté cette résidence. Peut-être, ajouta Willibald, y a-t-il encore au fond de cela quelque raison secrète? Précisément, cher Willibald, dit Rixendorf qui venait d'entrer et qui avait entendu les paroles de la conseillère intime. Et si Dieu le permet, tout cela ne tardera pas à s'éclaircir et à tourner à bien. Clémentine trouva toute l'histoire fort triviale et Nanette n'en pensa rien du tout. Mais Julie avait recouvré tout son enjouement. Breitlinger convia alors ses convives à la danse. Aussitôt, quatre joueurs de théorbe, assistés d'un couple de cornets à bouquins, de basse et de violon, jouèrent une sarabande expressive. Les vieux dansèrent et les jeunes gens faisaient tapisserie. Le conseiller de Brocard se distingua surtout par ses hardis entrechats et la soirée se passa fort gaiement. Il en fut de même de la matinée du lendemain. Comme la veille, un concert et un bal devaient clore les plaisirs de la journée. Le général Rixendorf était déjà au piano, le conseiller de Brocard avait le théorbe sous le bras et la conseillère intime Hurd sa partie de chant à la main. On n'attendait plus que la présence du conseiller Reutlingen lorsqu'on entendit retentir des cris d'angoisse et qu'on vit les domestiques courir au fond du jardin. Bientôt, ils rapportèrent le conseiller Aulic avec les traits bouleversés et pâles comme la mort. Le jardinier l'avait trouvé couché par terre, profondément évanoui, non loin du pavillon du Petit Bois. Rixendorf se leva précipitamment de devant le piano avec un cri d'effroi. On fit usage aussitôt de spiritueux et l'on commença par frotter avec de l'eau de Cologne le front du conseiller qu'on avait étendu sur le canapé. Mais l'ambassadeur turc s'empressa d'écarter tout le monde en s'écriant coup sur coup. « Mais finissez, finissez, ô gens ignorants et maladroits! Vous ne faites là qu'affaiblir et irriter en pure perte notre robuste et vaillant conseiller !» À ces mots, il lança son turban dans le jardin par-dessus toutes les têtes et le cafetan après. Puis il commença à décrire avec la main autour du conseiller Aulic des cercles étranges qu'il rétrécissait graduellement, de telle sorte qu'à la fin il lui touchait presque les tempes et le creux de l'estomac. Puis il souffla son haleine sur le conseiller, qui ouvrit aussitôt les yeux et dit d'une voix faible « Exter, tu as eu tort de m'éveiller !» Une puissance ténébreuse m'a annoncé ma fin prochaine, et peut-être m'était-il accordé de passer à mon insu de cette léthargie au sommeil de la mort. Sottise rêverie, s'écria Exter, ton heure n'est pas encore revenue. Regarde seulement autour de toi, mon bon frère. Vois où tu es, redeviens joyeux, comme il convient d'être. Le conseiller Aulic s'aperçut alors qu'il se trouvait dans le salon en pleine compagnie. Il se leva vivement du canapé, fit quelques pas en avant et dit avec un gracieux sourire « Ah, je vous ai donné là un méchant spectacle, mes honorables hôtes. Mais il n'a pas dépendu de moi que ces maladroits me fortassent aucune part qu'ici. Hâtons-nous d'oublier ce fâcheux intermède. Allez, dansons !» La musique commença aussitôt. Mais au moment où tout le monde était occupé à se saluer révérencieusement dans le premier menuet, le conseiller Aulic se glissa hors du salon avec Exter et Rixendorf. Lorsqu'ils furent arrivés dans une chambre éloignée, Reutlingen se laissa tomber épuisé dans un fauteuil et cachant son visage dans ses mains, il dit d'une voix suffoquée par la douleur « Oh, mes amis, mes amis !» Exter et Rixendorf supposaient avec raison que quelque accident fatal avait amené cette crise et que le conseiller allait leur faire connaître la vérité. « Qu'au hasard, mon vieil ami, » dit Rixendorf, « il t'est arrivé dans le jardin quelque chose de funeste. Dieu sait de quelle manière. » « Mais, » interrompit Exter, « je ne conçois pas du tout comment quelque chose de fâcheux pourrait arriver au conseiller, surtout à cette époque où son principe sidéral brille d'un éclat pur et plus beau que jamais. « Pourtant, pourtant, Exter, » reprit le conseiller d'une voix sourde, « ce sera bientôt fait de moi. L'audacieux provocateur d'esprit n'aura pas frappé impunément aux portes de leur sombre empire. Non, je te le répète, une puissance mystérieuse m'a permis de jeter un regard derrière la toile. Une mort prochaine, une mort affreuse peut-être, m'est annoncée. « Mais dis-moi donc ce qui t'est arrivé, » répéta Rixendorf avec impatience. « Je parie que tout se réduit à un rêve de ton imagination. Toi et Exter, vous gâtez votre vie à plaisir avec vos chimères extravagantes. » « Apprenez donc, » dit le conseiller en se levant de son fauteuil et se plaçant entre ses deux amis, « quelle émotion d'horreur et d'effroi m'a plongé dans ce profond évanouissement. » Vous étiez déjà tous rassemblés dans le salon, lorsque, oh, je ne sais moi-même à quel propos, il me prit la fantaisie de faire encore un tour tout seul dans le jardin. Mes pas se dirigèrent involontairement vers le petit bois. Là, il me sembla tout à coup entendre un léger frôlement et le sourd murmure d'une voix plaintive. Les sons semblaient venir du pavillon. Je m'approche, la porte du pavillon est ouverte, et j'aperçois moi-même, oui, moi en personne, mais tel que j'étais il y a 30 ans, avec le même habit que je portais dans ce jour de funeste mémoire, où je songeais à me soustraire au plus amer désespoir en mettant fin à une vie misérable, lorsque Julie m'a paru comme un ange de lumière dans sa parure nuptiale. C'était le jour de son mariage. Eh bien, mon image, moi, mon propre individu, était agenouillé dans le pavillon devant le cœur rouge et murmurait en frappant dessus de manière à lui faire rendre un son creux. Jamais, jamais, tu ne pourras donc t'attendrir, cœur de pierre. Je demeurais stupéfait, immobile. Un frisson mortel vint glacer mes veines. Et soudain, j'aperçois Julie, dans tout l'éclat de sa parure nuptiale, rayonnante de fraîcheur et de beauté, qui s'avance sous les arbres, et qui tend les bras vers mon image, cet autre moi, un plus jeune de 30 ans, avec l'expression de la plus vive tendresse. Je tombais sans connaissance. Le conseiller, à ces mots, retomba encore à demi évanoui dans le fauteuil. Mais Rixendorf saisit ses deux mains, les secoua, et lui cria d'une voix forte, « Quoi ? C'est là tout ce que tu as vu, mon ami? Tu n'as vu que cela, rien que cela? Nous ferons une décharge de tes canons japonais en signe de victoire. Quant à ta mort prochaine, quant à l'apparition de ton sosie, mais ce n'est rien, rien du tout. Tu vivras encore longtemps sur cette terre, et j'espère te guérir de tes mauvais rêves en te montrant leur peu de réalité. » En même temps, Rixendorf se précipita hors de la chambre plus vite que son âge ne semblait devoir le permettre. Il était douteux que le conseiller eût entendu les paroles de Rixendorf, car il était encore abattu et les yeux fermés. Exter se promenait à grands pas de long en large. Il fronçait le sourcil et disait avec humeur « Bah !» Je parie que cet homme songe encore à expliquer tout cela d'une manière naturelle. Mais il n'y parviendra pas aisément, n'est-il pas vrai, cher conseiller? Nous nous connaissons aux apparitions. Je voudrais bien seulement avoir mon cafetan et mon turban. En parlant ainsi, il tira de son gousset un petit sifflet d'argent qu'il portait constamment sur lui et en donna un coup prolongé. Presque immédiatement, un de ses maures parut et lui remit en effet le turban et le cafetan. Bientôt après, entra la conseillère intime Ferd, suivie de son mari et de sa fille Julie. Le conseiller Olic se leva promptement, et tout en assurant qu'il était parfaitement guéri, il se sentit effectivement beaucoup mieux. Il demanda qu'il ne fût plus question de cet incident, et ils allaient retourner tous dans le salon, à l'exception d'Exter, qui s'était étendu sur le sofa dans son costume turc et qui buvait du café en fumant dans une pipe démesurément longue dont le fourneau, posé sur des roulettes, glissait en tous sens sur le parquet. Mais tout à coup, la porte s'ouvrit et Rixendorf s'élança dans la chambre. Il tenait par la main un jeune homme vêtu de l'ancien costume militaire. C'était Max, dont l'aspect fit frissonner le conseiller Olic. « Mais tu vois ici ton double, mon ami, l'objet de ton illusion chimérique !» s'écria Rixendorf. « C'est moi qui ai retenu ici mon excellent Max, et qui lui ai fait donner, par ton valet de chambre, un habit de ta garde-robe pour qu'il puisse figurer convenablement avec vous. » C'était lui qui était agenouillé près du cœur dans le pavillon. Oui, devant ton cœur de pierre, oncle dur et insensible, tu as vu prosterner ton neveu, lui que tu as impitoyablement repoussé loin de toi sous l'influence d'une vision chimérique. Si le frère a manqué grièvement au frère, il a expié depuis longtemps ses torts en mourant accablé de la plus profonde misère. Voilà l'orphelin sans soutien. Voilà ton neveu, appelé Max comme toi, ton fidèle portrait au physique comme au moral. On le prendrait pour ton propre fils. L'enfant et le jeune homme ont courageusement lutté contre les vagues mugissantes du torrent de la vie. Allons, fais-lui bon accueil. Que ce cœur inflexible s'attendrisse, tends-lui une main bienfaisante, pour qu'il ait au moins un appui, si le malheur déchaînait sur lui de trop violentes tempêtes. » Le jeune homme, avec une contenance humble et respectueuse, des larmes brûlantes dans les yeux, s'était approché du conseiller. Celui-ci était là, pâle comme un spectre, les yeux étincelants, la tête rejetée orgueilleusement en arrière, muet et glacé. Mais quand le jeune homme voulut prendre sa main, il recula de deux pas avec un geste de répulsion et s'écria d'une voix terrible : « Traître ! Viens-tu ici pour m'assassiner ? Allez, va-t'en ! Fuis loin de moi, oui, tu me fais un jouet de mon cœur, de moi-même. Et toi aussi, Rixendorf, tu prêtes tes mains à la puérile comédie dont on cherche à me rendre le dupe. Va-t'en, te dis-je. Fuis loin d'ici, loin de mes yeux, toi qui es né pour ma perte, toi le fils du plus infâme sire. » Mais arrête, s'écria soudain Max, dont les yeux lançaient des éclairs de colère et de désespoir. « Arrête, ongle dénaturé, frère barbare et impitoyable, toi qui as accumulé de prétendus griefs contre mon pauvre malheureux père, qui eut à se reprocher peut-être un excès de légèreté, mais qui ne conçut jamais la pensée d'un crime, toi qui as provoqué sur sa tête l'opprobre et le déshonneur. Ô malheureux fou que j'étais d'avoir pu croire un seul moment que je parviendrais jamais à émouvoir ce cœur de pierre et à réparer à tes yeux les torts de mon père en t'entourant d'affection et de dévouement. s'était abandonné de tout le monde, sur le grabat de la misère, mais pressé dans les bras d'un fils désolé, que mon père a terminé sa triste existence. Eh bien, Max, me dit-il, fais un acte de vertu. Réconcilie à ma mémoire un frère implacable. Deviens son fils. Telles furent les dernières paroles qu'il prononça. Mais tu me repousses, comme tu repousses tout ce qui s'approche de toi avec amour et dévouement, tandis que tu te laisses mystifier par des hallucinations absurdes et diaboliques. Eh bien, meurs donc seul et délaissé, que le cupide valet guette incessamment ton heure dernière et se partage tes dépouilles, avant même que tes yeux, fatigués de la vie, ne soient entièrement clos. Au lieu des soupirs plaintifs, des regrets sincères de ceux qui voulaient adoucir par leur amour le reste de ta vie, que tu entends en mourant les rires moqueurs, les insolentes plaisanteries des mercenaires dont tu auras vainement acheté les soins à prix d'or. Jamais, jamais, tu ne me reverras plus. Le jeune homme allait se précipiter dehors, quand il vit Julie, prête à tomber par terre, et poussant de douloureux sanglots. Il s'élança promptement vers elle, la reçut dans ses bras, et la pressant tendrement sur son sein, il s'écria avec l'accent déchirant d'un désespoir inconsolable. « Oh, Julie, Julie, tout espoir est perdu !» Reutlinger était resté immobile, tremblant de tous ses membres, et sans proférer une parole. Ses lèvres convulsivement serrées ne pouvaient articuler une syllabe. Mais lorsqu'il aperçut Julie dans les bras de Marx, il poussa des cris violents comme un insensé. Il s'avança vers eux d'un pas hardi et vigoureux. Il saisit la jeune fille dans ses bras et la soulevant en l'air, il lui demanda d'une voix étouffée « Aimes-tu ce Max, Julie ?»« Mais comme ma vie !» répliqua Julie, avec l'expression de la plus amère douleur. Le poignard que vous enfoncez dans son cœur a traversé ma poitrine. Alors le conseiller la reposa lentement par terre et la fit asseoir avec précaution dans un fauteuil. Puis il resta là, les deux mains croisées sur son front. Le silence de la tombe régnait autour de lui. Pas un mot, pas un mouvement de la part des témoins de cette scène. Enfin, le conseiller tomba sur ses deux genoux. Une vive rougeur vint enflammer ses traits et ses yeux se remplirent de larmes. Il leva la tête, étendit les deux bras vers le ciel et dit d'une voix basse et solennelle « Puissance impénétrable et éternelle, c'était ta suprême volonté. Ma vie agitée n'a été que le germe enfoui dans le sein de la terre, et d'où surgit l'arbre vigoureux qui porte des fleurs et des fruits magnifiques. Oh, Julie, Julie, ô pauvre fou aveuglé que je suis !» Le conseiller Olix se voila le visage. On l'entendit sangloter. Cela dura quelques minutes, puis Reutlingen se leva tout à coup avec impétuosité. Il s'élança vers Max, qui restait là interdit, et le pressant sur sa poitrine, il s'écria comme hors de lui-même. « Tu aimes Julie, or tu es mon fils. Non, mieux que cela, tu es moi, moi-même. » Tout t'appartient, tu es riche, très riche, tu as une campagne, des maisons, de l'argent comptant. Laisse-moi rester auprès de toi, tu me donneras le pain de la charité dans mes vieux jours, n'est-ce pas? Tu le veux bien, car tu m'aimes, toi, n'est-ce pas? Il faut bien que tu m'aimes, n'es-tu pas moi-même? Ne crains plus, mon cœur de pierre. Presse-toi bien fort contre ta poitrine. Les battements du tien t'attendriront. Max, Max, mon fils, mon ami, mon bienfaiteur. Il poursuivit ainsi, sur ce ton, au point que tout le monde s'inquiétait de ses transports frénétiques d'une sensibilité exaltée. Brixendorf, en ami prudent, parvint enfin à le calmer et le conseiller, plus maître de lui-même, comprit seulement alors tout ce qu'il avait réellement gagné en cet excellent jeune homme et s'aperçut avec une profonde émotion que la conseillère intime Ferd voyait aussi dans l'union de sa Julie avec le neveu de Rüttlingen renaître, pour ainsi dire, une époque de félicité perdue pour elle depuis bien longtemps. Le conseiller Ferd manifestait une grande satisfaction. Il prenait beaucoup de tabac et exprimait son assentiment dans un français bien correct et prononcé suivant toutes les règles. Il s'agissait avant tout de faire part de cet événement aux deux sœurs de Julie. Mais on ne pouvait le trouver nulle part. On avait déjà cherché la petite Nanette dans les grands vases du Japon qui garnissaient le vestibule et il aurait bien pu se laisser tomber en se penchant trop par-dessus les bords, mais en vain. Enfin, on la découvrit endormie sous un rosier touffu où elle se distinguait à peine. On joignit aussi Clémentine dans une allée écartée du parc où elle déclamait en ce moment à haute voix après que le jeune homme blond qu'elle avait en vain poursuivi. Oh, souvent, l'homme s'aperçoit bien tard combien il fut aimé, combien il fut ingrat et oublieux, et combien était grand le cœur qu'il méconnut. Les deux sœurs témoignèrent d'abord un peu d'humeur du mariage de leur sœur, plus jeune qu'elle, mais aussi de beaucoup plus belle et plus attrayante. La médisante Nanette, surtout, fit la grimace avec son petit nez retroussé. Mère Rixendorf la prit à part et lui fit entendre qu'elle pourrait bien avoir un jour un mari beaucoup plus distingué, avec une propriété encore plus belle. Alors elle redevint contente et chanta de nouveau son refrain « Amenez vos troupeaux aux bergères !» Pour Clémentine, elle dit très sérieusement et avec emphase « Dans la vie conjugale, les plaisirs calmes et faciles, le bonheur domestique circonscrit entre quatre murailles étroites, ne sont que d'accessoires de peu d'importance. Ce qui en constitue l'essence, la vitalité, ce sont les torrents d'amour qui coulent de deux cœurs sympathiques comme des flots de naphte flamboyants pour se réunir et se confondre dans une harmonieuse unité. La société du salon, déjà avertie de ces circonstances étranges et joyeuses, attendait le couple d'époux avec impatience pour se livrer aux félicitations d'étiquette. Le conseiller de Brocard, qui avait tout vu et tout entendu par la fenêtre, remarqua d'un air très fin « Ah, je comprends à présent pourquoi le pauvre Max attachait à son bouc tant d'importance. » Car s'il avait été une fois en prison, il n'y aurait plus moyen de songer à une réconciliation. Tout le monde, Willibald le premier, approuva cette sage réflexion. Comme les principaux acteurs de notre histoire allaient donc quitter la chambre pour entrer au salon, l'ambassadeur turc, qui était resté si longtemps silencieux sur le sofa et qui n'avait témoigné de sa participation à tout cela, qu'en faisant glisser sa pipe dans tous les sens avec les grimaces les plus étranges, se leva subitement comme un fou et se précipita entre les deux fiancés. « Quoi, quoi ? » s'écria-t-il. « S'épouser tout de suite ? Conclure ce mariage ainsi, à l'improviste ? Je rends justice à tes talents, Max, à ton zèle laborieux. » « Mais tu n'es qu'un apprenti dans la vie, sans expérience, sans acquis, sans usage du monde. Tu marches les pieds en dedans et tu es un civil dans ton langage, comme je l'ai remarqué tout à l'heure lorsque tu as tutoyé ton oncle, le conseiller Olli Krautingen. Allô, mon garçon, il faut courir le monde. À Constantinople, là, tu apprendras tout ce qu'il faut savoir dans la vie, et à ton retour, tu épouseras à ton aise cette charmante et jolie enfant, ma chère Juliette. Tout le monde parut fort surpris de ce conseil d'Exter. Mais celui-ci prit le conseiller Olli à part. Tous deux se placèrent en face l'un de l'autre, se mirent mutuellement les mains sur les épaules et échangèrent quelques mots arabes. Pierre-Oettingen s'approcha de Max, lui prit la main et lui dit très doucement et amicalement « Mon cher et bon fils Max, mon ami, fais-moi ce plaisir, va à Constantinople. Cela peut demander 6 mois tout au plus, et ensuite nous ferons joyeusement la noce ici. » Malgré toutes les protestations de sa fiancée, Max dut partir pour Constantinople. Maintenant, bien-aimés lecteurs, je pourrais bien à propos terminer là mon récit, car tu peux aisément imaginer qu'après être revenu de Constantinople, où il avait vu la marche de marbre sur laquelle le chien de mer avait déposé l'enfant devant Exter, ainsi que beaucoup d'autres choses remarquables, Max se maria sans obstacle avec Julie. Et tes exigences ne vont pas sans doute jusqu'à vouloir savoir quelle était la parure de la mariée et combien d'enfants le recouple a procréé jusqu'à ce jour. Il ne me reste qu'une seule chose à ajouter, c'est que le jour de la nativité de la Vierge de l'année 1800, Max et Julie étaient agenouillés en face l'un de l'autre, près du cœur du pavillon. D'abondantes larmes coulaient de leurs yeux sur cette froide pierre, car elles recouvraient alors le cœur, hélas, trop cruellement ulcéré du bon conseiller Olic. Non pour imiter le cénotaphe de Lord Horion, mais parce que rien ne pouvait mieux résumer la vie et les souffrances de son pauvre oncle, Max avait de sa propre main gravé ces mots dans la pierre: « Il repose ».